Bonjour à tous, vous êtes entre les lignes, le rendez-vous littéraire d'Espace 2. Jean-Michel Meyer, Christine Gonzalez, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bienvenue à vous. Entre les lignes lance une nouvelle formule, les maudits. Une fois par mois, l'auteur se fait plus discret au profit du texte, de son texte, mis en onde par Jean-Michel Meyer. Et pour cette première édition, Antoinette Richner, jeune auteure neuchâteloise, a accepté notre invitation. Nous en sommes ravis. Cette ancienne élève de l'Institut littéraire suisse a publié aux éditions de l'Eb son premier livre, Petite collection d'instants fossiles, un recueil de nouvelles qui s'est fait très remarquer l'année dernière. C'est à la rentrée littéraire de septembre 2010. Plus récemment, Antoinette Richner est était auteure en résidence au Théâtre du Grütli à Genève, où elle a réalisé Karna, un spectacle en collaboration avec une danseuse, une comédienne, un performeur, un metteur en scène également. Bonjour Antoinette Richner.
Bonjour.
Alors comment c'était cette aventure du Grütli? Ça s'est bien passé?
Oui, c'était une expérience extraordinaire, très riche. Bon là, ça s'est terminé dimanche, donc il y a toujours le fameux petit creux post-production. Évidemment, c'est très intense. On était ensemble pendant plus d'un mois, les cinq personnes dans un rapport très proche.
Oui, très proche, c'est le cas de le dire, parce que vous étiez en plus dans une zone d'écriture. Vous viviez, vous, au théâtre?
Oui, en fait, la résidence avait commencé cet automne avec plusieurs auteurs et on avait chacun à notre disposition dans la white box qui est au deuxième étage du Grütli, donc un espace entièrement blanc. On avait des petites cellules en bois qui ressemblaient un peu à des cellules de copistes ou... où on pouvait habiter. Donc moi, effectivement, habitant Neuchâtel, ça m'arrangeait bien de dormir là. Donc j'ai vécu littéralement écrit, mangé, dormi dans cet espace.
Une résidence au sens propre, pour le coup.
Tout à fait, ouais.
Bonjour Jean-Michel Meyer.
Bonjour Christine.
Alors c'est vous qui avez imaginé cette formule, les maudits en deux mots, dites-nous en plus.
Hein. Oui, surtout pas. N'allez pas imaginer qu'il s'agisse d'une quelconque malédiction. C'est simplement, c'est comme vous l'avez dit, c'est se taire un peu, nous, ne pas forcément demander à l'auteur que nous invitons de beaucoup commenter. Et pour entendre ce qu'il y a entre les lignes, c'est pas mal d'entendre les lignes de temps en temps.
Et vous avez choisi donc pour inaugurer cette formule, les nouvelles d'Antoinette Richner. Pourquoi celle-ci?
Alors d'une part, les nouvelles, parce que la forme brève, d'une part,
se prête bien.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la radio. Vous m'aidez. Se prête bien à l'exercice radiophonique, justement. Et puis que, voilà, ce sont des textes qui m'ont, lorsque je les ai lus, c'est peut-être un des critères pour moi principal du plaisir de la lecture, m'ont donné envie de les entendre, de les dire ou de demander à quelqu'un de les dire. Voilà, il y a une sensibilité, il y a un humour, des choses qui, j'espère, vous donneront du plaisir.
Antoinette Richner, quand Jean-Michel Meyer nous dit qu'il y a des textes qui invitent vraiment à la lecture, à la voix haute, est-ce que ce lien à l'oralité, vous le travaillez beaucoup?
Dans le cadre du théâtre, forcément que je me pose ces questions-là. Après, pour ce qui est de ce livre « Petite collection d'instants fossiles », ben pour moi, c'est plus étonnant de voir justement ce qui va se passer avec l'oralité. Donc, je suis assez impatiente de les entendre.
Mais nous aussi, d'ailleurs. Mais Jean-Michel, juste pour savoir, je suis curieuse, c'est que dans « Petite collection d'instants fossiles » que vous avez été piocher des textes?
Non, alors pour varier les plaisirs, nous nous sommes rencontrés avec Antoinette. Et puis, elle m'a fait visiter, d'une part... un certain nombre de textes qu'elle avait écrits dans d'autres contextes, textes de théâtre, textes écrits en résidence. Alors j'ai pioché là-dedans aussi. Et puis elle m'a fait visiter sa collection de citations. Je suis entré dans la boîte blanche dont il était question tout à l'heure, entré dans une autre boîte blanche qui est son ordinateur. Et puis on a voyagé. C'est une grande collectionneuse. Vous avez combien de citations, Antoinette?
Et plus d'un millier,
voilà.
Maintenant.
Alors on entendra ça tout à l'heure aussi.
Alors on va commencer par un texte. Ce n'est pas un texte issu de cette boîte blanche ni de cet ordinateur. C'est dans le recueil des éditions de l'Eb, Petite collection d'instants fossiles. Nous irons vivre libre, une lecture assurée par Roland Vouillot.
Nous irons vivre libre. Jolin s'écrase la gâchette de la pompe à essence. Difficile de dire pourquoi, mais il s'est toujours refusé à utiliser le taquet de blocage, préférant maintenir lui-même le bec du tuyau durant toute la durée de l'opération. Peut-être parce qu'en le gardant dans sa main, il se donne l'impression d'être un animal énorme qui urinerait debout. Mais contre la voiture, le plus souvent, une inquiétude finit par le crisper. C'est encore en station forcée que les bêtes se rendent le plus vulnérables. Et Jonas a l'impression que dans son dos, la zone invisible se remplit de prédateurs. Laissez-moi vous aider. Un type aux épaules larges lui adresse un sourire. Il porte une salopette de fonction et sur sa poitrine, une petite étiquette brodée « Johnny Burger ». Merci, je m'en sors. Laissez-moi vous aider. Johnny B prend la place de Jonas, lui enlève le bec des mains et maintient la gâchette jusqu'à ce qu'un drôle de bruit se fasse entendre, une sorte de gargarisme dans le tuyau. Les amours. Le plein est déjà terminé ? C'était mon dernier litre, mec. Tous les réservoirs sont vides. Et ce n'est pas demain la veille qu'un camion-citerne va repasser par ici. J'espère que tu t'en rends compte. J'ai rêvé ou ce gamin tutoyé ? Jonas hésite un instant à protester, regarde les épaules qui saillent des deux côtés des bretelles et décide de s'abstenir. La dernière goutte d'essence, on y est. Il y a une semaine, j'ai lu un article sur la découverte de nouveaux gisements. Quel âge as-tu ? 43 ans, pourquoi ? Et tu ne sais toujours pas que les journaux racontent n'importe quoi ? Écoutez, Johnny, c'est toi qui vas m'écouter. Toi et moi, on va calculer ce que tu me dois. Mais le prix du litre est affiché. Il vient de grimper. La crise est en train de gagner tout le pays, mec. Grande merde. Au moment même où tu me causes. Jonas regarde les voitures arrêtées sous l'auvent. Il réalise qu'elles sont toutes abandonnées, comme des jouets. Elles attendent qu'on veuille bien les manipuler. Certaines sont déjà à l'état de carcasse et le vent, par intermittence, agace leurs antennes à demi arrachées. Le maître de la station articule un premier chiffre. Jonas pousse un hurlement qui se prend pour un rire. Et autant te dire que tu peux ranger ta carte, je prends que du liquide. Jonas commence par sortir tous ses billets, réfléchit un instant, puis ouvre le fermoir de sa montre qu'il dépose sur le plat de la pompe. Mais Johnny B secoue la tête. Le compte n'y est pas. Mon veston alors ? Rien d'autre. Mes chaussures ? À nouveau, Johnny B secoue la tête. Ses joues se craquellent comme deux morceaux de vieux caoutchouc. Jonas se tâte, à la recherche d'une valeur oubliée. À sa connaissance, rien ne peut plus se détacher de son corps, ni diamant, ni dentier, ni prothèse d'aucune sorte. Le type pointe alors l'habitacle du doigt. Derrière le pare-brise, le profil impassible de Marie, son teint pâle comme du lait. « Non, » dit Jonas immédiatement. « La voiture si vous voulez, mais pas elle. » Et dans son estomac, quelque chose se contracte. Il lui semble n'avoir jamais rien dit d'aussi beau. Auprès d'un robinet, un homme âgé abreuve maintenant un cheval à l'aide d'un seau. Jonas fait un signe à Marie qui sort de la voiture. Calmement, elle glisse une bouteille d'eau dans son sac et le rejoint. Jonas prend sa femme par la main, l'entraîne vers la route. Sur le bitume, le couple s'éloigne. De chaque côté, il n'y a plus que les étendues arides. Le soleil déclinant se prend dans les fils emmêlés d'un poteau électrique et le vent continue de souffler. L'arrêt automatique de la pompe à essence. Le réservoir est plein. Jonas sursaute, se retourne. La station est déserte. Il raccroche le bec sur la pompe, ouvre son porte-monnaie pour vérifier qu'il a bien rangé sa carte de crédit, réintègre la place du conducteur. J'ai mal à la tête, dit-elle. On est bientôt rentrés. Il tente de l'embrasser sur le front, mais elle évite son baiser. Avec le contact s'allume l'autoradio. Nous irons vivre libres dans un pays sauvage, et nos armes seront l'amour et le courage. Chante la voix rocailleuse d'Arthur H. Du bout des doigts, Jonas tente de tapoter quelque chose à un rythme sur le volant. Il connaît la suite des paroles et voudrait bien murmurer. « Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. » Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. « J'ai mal à la tête, » répète-t-elle avant de couper l'autoradio. En silence, il continue de rouler dans la nuit tombante. Jonas cligne des yeux. Dans le rétroviseur, deux silhouettes minuscules évoquent celles d'un homme aux côtés d'un cheval.
Nous irons vivre libres dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et dans mon coup de botte, sonner les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Est-ce que tu aimes ton western quand le héros s'en va seul comme un chien?
Oh oui, j'aime.
Est-ce que tu aimes
dans un pays sauvage, et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et dans mon coup de botte, sonner les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Nous irons vivre libre, tout le monde danse ici sur Espace 2. Arthur H en duo avec M. Vous venez de découvrir un extrait de Petite collection d'instants fossiles, paru chez Leb, écrit par Antoinette Richner, qui est notre invitée jusqu'à midi. Une lecture de Roland Vouillot, une réalisation de Jean-Michel Meyer. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de vous entendre?
Moi, j'adore. J'ai complètement retrouvé l'ambiance western que j'avais mis justement dans
cette
C'était
la chanson, le point de départ?
Oui, c'était la chanson. Enfin, c'était aussi une imagerie comme ça, un peu road movie, qu'on retrouve tout à fait. Je trouve qu'il est fort, vraiment, Roland Bouillot, parce qu'il s'en sort très bien pour distinguer les deux personnages.
Ce qui était difficile aussi, juste sur le plan de la réalisation, j'espère que tout le monde a suivi, c'est la bascule. C'est-à-dire que toute une grande partie de l'histoire se passe dans le rêve et dans l'imaginaire, puis on revient à la réalité. J'espère que tout le monde avait compris
ça. Oui, je pense qu'on a entendu.
Moi j'ai senti, évidemment je connais bien l'histoire, mais je trouve qu'on ressent assez le traitement du fantasme, et puis tout à coup on revient à ce côté un peu plus mélancolique d'un quotidien un peu protégé, comme ça, voilà, on rêve d'une vie sauvage, puis en fait on se retrouve dans des, un peu cougné dans des limites du quotidien, puis je trouve qu'il a un très beau grain de voix en fait.
Je suis assez d'accord, vous allez le retrouver maintenant avec quelqu'un qui a aussi un très beau grain de voix et un sacré talent, qui est Christine Vouillot, qui est sa sœur, avec un petit texte très court qui s'appelle Cerisier, que j'aime énormément, et je l'aimais tellement ce texte que je ne savais auquel des deux comédiens demander de le dire. Donc j'ai demandé à chacun et j'ai mêlé les deux voix. Cerisier.
Cerisier.
Elle l'a installé sur le banc. Tout d'abord, il a gardé les yeux sur la pointe de ses mules, qui à même la dalle de ciment frôle quelques brins d'herbe.
Tout d'abord, il a gardé les yeux sur la pointe de ses mules, qui à même la dalle de ciment frôle quelques brins d'herbe.
Fin avril. La pelouse n'a pas encore été tondue. Et en ce lendemain de pluie, elle semble extraordinairement grasse et vigoureuse.
Extraordinairement grasse et vigoureuse.
Tout d'abord, il a gardé les yeux rivés sur ses mules, puis ses pupilles ont commencé à se déplacer.
aux alentours, les champs sont gorgés d'eau, et dans les branchages, les gouttelettes tremblent comme les perles d'un lustre.
Le ciel est couvert, mais il fait doux.
Est-ce qu'il a froid ?
Elle tente de remonter la couverture plus haut sur les jambes du pyjama. Mais il pousse une sorte de feulement qu'elle ne sait pas interpréter.
Alors, elle renonce à le toucher, se contente de tourner la tête dans la même direction que lui.
Le cerisier a perdu toutes ses fleurs.
Une dernière poignée s'en détache.
Comme des flocons.
Les pétales volettent.
Jusqu'à se déposer sur ceux qui,
en couronne, gisent déjà autour du tronc.
Cerisier, Antoinette, un de ces textes courts qui font ce recueil de nouvelles publiées aux éditions de l'Eb, avec des thèmes comme ça qui reviennent, par exemple la vieillesse, il y a d'autres histoires qui parlent de vieillesse, ou le couple, ou l'enfance.
Oui, là, la vieillesse, le fait d'être mortel, je crois, chez les humains, la fragilité, puis j'ai été assez touchée que tu répètes deux fois extraordinairement grasse et vigoureuse. Parce qu'il me semble que c'est un des centres de ce fragment, c'est un peu l'indécence de la nature qui va toujours son bout de vie, qui continue face à un homme qui est mourant.
Et on saute dans ce recueil, comme nous allons le faire maintenant, d'un registre à l'autre, un registre parfois plus drôle, avec un petit texte très court aussi, intitulé cette fois « Pourquoi Bob ne mangera jamais ce yogourt aux fraises ?»
Pourquoi Bob ne mangera jamais ce yogourt aux fraises ? Il y a ce dernier yogourt dans le frigo. Un yogourt aux fraises. Hier soir, Bob lui a dit « Martha, il ne reste plus qu'un yogourt. » Et elle lui a répondu « Sers-toi. » Mais il n'en a rien fait. Alors qu'il l'aurait pourtant bien avalé, ce petit yogourt. Rien que ce petit yogourt. Le danger que pressent Bob, selon elle, c'est que le frigo, lorsqu'on lui aura retiré son dernier bien, se résignera à dévoiler l'image la plus blanche, la plus nette et la plus sévère de son anatomie. Et qu'alors, fatalement, le pilleur en viendra à s'interroger sur les suites de son geste, ainsi que sur les fondements, pourquoi pas, les fondements de ce décret tacite qui fait que la charge des courses revient à Martha davantage qu'à Bob. C'est pourquoi, toujours selon elle, Bob a finalement décidé de reporter le moment d'y toucher.
Vous écoutez Entre les lignes sur Espace de Décliné aujourd'hui en maudit en deux mots pour dire les mots, bien sûr, pour dire les textes. Nous découvrons aujourd'hui la prose d'Antoinette Richner et on décèle bien là, Jean-Michel Meyer, ce goût pour la forme brève.
Oui, alors comme ça, il y a des textes qui sont comme des haïkus, des haïkai, paraît-il, on dit comme ça. Et puis, il y a, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux, il y a ce goût que vous avez des citations. Ce sont aussi des formes brèves, les citations.
Oui, j'aime bien les formes très brèves. Par exemple, certains recueils d'aphorismes, que je pense à Canetti, par exemple, qui me fascine pas mal. Parce que, en fait, je trouve du coup le cheminement entre les aphorismes, c'est une autre expérience que de lire un texte suivi, quoi, d'une narration.
Et vous êtes collectionneuse de citations. Vous m'avez fait visiter votre collection de citations, un répertoire de 1000, ce que vous disiez tout à l'heure, 1800 qui sont soigneusement classés dans votre ordinateur. Alors je me suis invité chez vous pendant ce temps du spectacle, de la préparation du spectacle au Grütli. C'était donc cette boîte blanche, ce cuve ouvert sans plafond où vous dormiez la nuit, où vous travailliez le jour, qui était intégré au décor du spectacle qui vient d'être présenté au théâtre du Grütli. On a ouvert l'ordinateur et je me suis baladé, visite guidée par Antoinette Richner.
Ce qui est intéressant, c'est que ça donne la possibilité de faire des recherches, parce que quand tu es face à un livre, tu peux pas retrouver facilement ce qui t'intéresse. Donc là, je peux chercher par auteur. J'ai tenté aussi de trier un petit peu différemment. Là, par exemple, j'ai créé des types. Donc on voit, il y a métaphore, aphorisme, développement, vérité de l'auteur et aussi vérité du personnage plus loin.
Qu'est-ce que ça dénote, ça ? Ça dénote un esprit extrêmement structuré ou quelqu'un qui est très adapté aux technologies ?
C'est tellement labyrinthique et puis c'est tellement infini, la littérature. On se dit bien qu'on ne pourra jamais tout lire. Donc peut-être face à ce vertige, on développe un peu des stratégies qui valent ce qu'elles valent. Puis après aussi l'attitude de l'auteur, quoi, parce que moi je suis en recherche de la phrase parfaite toujours, enfin ma phrase parfaite, donc j'essaie de décortiquer chez les phrases des autres qui me plaisent, ce que je pourrais en faire, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à en apprendre.
Des petits moments de beauté littéraire.
Ouais, des moments vraiment d'émotion, de poils qui se dressent sur les bras. Parfois ça peut être juste de l'admiration littéraire, ou parfois une sensation de vérité philosophique. Et puis c'est aussi tout bêtement le plaisir au moment de les taper, parce que j'ai une amie avec qui je fais ça, alors on se voit puis on passe une après-midi ensemble à se dicter, parce que sinon c'est interminable. Et souvent elle, ça lui donne des idées de lecture après, je lui conseille, ça fait un peu club de lecture quoi. Le fait de les lire à quelqu'un, c'est comme devant une belle montagne, on a du plaisir à faire admirer à l'autre puis à dire regarde comme c'est beau. C'est un peu la même chose, j'ai du plaisir à lui montrer ce que j'ai trouvé. Il y a une rubrique qui s'appelle « Jonglage vieille balle ». J'avais repris cette idée de la vieille balle par un entretien avec le réalisateur de « Kirikou et la sorcière ». Et il disait qu'en fait, c'était le fait de faire un récit ou de faire une fiction, c'est des très très vieilles balles, et que l'art du jonglage est millénaire, mais aujourd'hui, c'est moi qui jongle. Ce qui est beau, je trouve, dans cette idée, c'est l'infinité des possibilités. On se dit vraiment, pourquoi écrire ? Tout a déjà été écrit ? Ben non, parce qu'on peut justement reprendre, et puis trouver quelque chose à soi. Ah ben voilà, Michel Osloo. Les contes sont comme un exercice de jonglage. Ce sont de très vieilles balles, millénaires. Je ne les ai pas inventées, mais aujourd'hui c'est moi qui jongle. Quand je repère, par exemple, une phrase avec des mots qui me semblent très usités ou très, très vieux, mais que je trouve que l'agencement est nouveau, je le classe dans jonglage vieille balle. Voilà, Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Il glissa une jambe entre les siennes, posa ses paumes sur son ventre et sur ses seins. Dans la douceur, dans la chaleur, il était au début du monde. Il s'endormit presque tout de suite. Donc là, ce que j'appelle jonglage vieille balle, c'est le terme « il était au début du monde ». Parce que début et monde, c'est des mots extrêmement simples. Et puis là, je trouve que de le formuler comme ça, moi, ça me crée une émotion esthétique.
Jacques Roubaud.
Notre ombre en automne prend l'eau. Nos pompes ne valent pas mieux. Gluantes des feuilles tombées dans les caniveaux de novembre, le soir dirige sa lumière. Là aussi, le soir et la lumière, c'est deux choses qui sont assez banales, je trouve, dans la poésie, en fait. Le terme lumière, c'est comme le terme jour, ou le terme esprit, ou le terme cœur, ou le terme étoile, ou le terme lune. J'hésite personnellement à les utiliser, j'ai toujours peur de faire quelque chose, de faire du cliché. Et puis, tout d'un coup, l'idée de diriger la lumière, pour moi, c'était du pas encore lu, quoi.
Christian Bobin.
Christian Bobin, alors lui, c'est le roi de mon répertoire, enfin de la rubrique jonglage vieille balle, parce que lui, il est très très fort justement pour utiliser des mots simples, les agencer à sa façon. Il est si doux d'avoir peur quand on est sûr d'être aimé.
Oui, moi, j'imagine un enfant à qui on raconte une histoire effrayante le soir, mais la personne qui la raconte l'aime beaucoup, alors c'est bon.
Il y a une issue.
Camille Laurence.
Les femmes cherchent l'homme de leur vie, mais parfois ils ressemblent à l'homme de leur mort. C'est le même parfois. Je dirais en lisant ça que, évidemment, comme j'ai commencé ce répertoire maintenant il y a 4 ans, il m'arrive de ne plus vraiment comprendre pourquoi je les ai mis, parce que j'évolue dans ma, J'évolue dans ma perception et que là, je vois une facilité aussi dans le jonglage vieille balle. L'homme de la vie, l'homme de la mort, c'est peut-être un peu le danger en littérature. On peut facilement retourner des tournures.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On efface du répertoire ?
Surtout pas, parce qu'après ça peut revenir au goût du jour suivant...
Suivant l'humeur.
Oui, et puis c'est intéressant de voir par quoi ça passe, je trouve. Bon, on peut faire une autre expérience maintenant qu'on a vu ça. Si je recherche, par exemple, dans les thèmes...
Source autoportrait. Auteur Édouard Levé. Citation: j'écris peut-être ce livre pour ne plus avoir à parler.
Je cherchais ça parce que je trouve que souvent on entend cette pensée de l'auteur qui dit qu'il a un problème avec la parole directe et qui, entre guillemets, se réfugie un petit peu dans l'écriture. Et il y en a d'autres.
Moi, je voyais ça en rapport direct avec la situation dans laquelle on est maintenant, où l'auteur est interviewé.
On cache derrière la parole des autres écrivains.
Non, mais où on demande à l'auteur de parler alors que son métier serait d'écrire.
Mais on va essayer avec parler, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Sinon, on essaierait avec écriture. Sarah Kane, je pensais que je ne parlerais plus jamais, mais maintenant je sais qu'il y a plus noir que le désir. Bon, phrase obscure, hein. J'ai toujours pas... Voilà, depuis que je l'ai entrée en 2008, je comprends toujours pas mieux ce que ça veut dire. Je la laisse en suspens. Ne pas se reconnaître le droit de parler, éprouver cependant le sentiment de devoir le faire. Voilà très précisément l'insoluble contradiction qui définit le protocole déchiré du témoignage chez Primo Levi. Bon, là, c'est encore... un autre problème bien plus douloureux de revenir d'un événement inhumain, comment on peut en témoigner, sachant que ceux qui pourraient vraiment témoigner sont morts. C'est un peu le problème éthique de témoigner à la place de l'autre, je pense, qu'il veut soulever là. Si je mets écrire ou écriture, alors il y en a 10. Hein. Philippe Forest, qui a été vraiment un de mes grands, tout grands dadas, et quand j'ai découvert, maintenant je lis un peu moins, mais. Ça, je trouve très très beau aussi. La conviction très concrète de s'avancer lentement en direction d'une vérité absurde, irraisonnée, inutile et interdite, contre laquelle tout parle et qui exige cependant qu'on la dise une fois pour toutes. Voilà, cette notion de dire une fois pour toutes, moi personnellement j'y retrouve aussi un peu mon obsession parce que j'ai l'impression que c'est ça le moteur, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il existe une phrase qui doit être dite, mais que je dois trouver.
Il n'y a pas une phrase qui serait le Graal, la clé de toutes les portes et de toutes les serrures.
Si, je pense que c'est un peu naïf, mais j'ai quand même l'idée du Graal. Je me dis, ça doit exister, enfin, c'est pas si c'est la vérité, peut-être. Mais je ne crois pas que c'est vraiment la vérité que je cherche. Mais je cherche la phrase qui donnerait l'illusion qu'on a compris la vérité dans l'instant. Je ne vais jamais l'attraper, mais c'est le jeu de chercher ça. Ça, je la trouve géniale aussi. Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à table et écoute. N'écoute même pas, attends seulement. N'attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Il ne peut faire autrement. Extasié, il se tordra devant toi.
Extrait des méditations sur le péché, la souffrance, l'espoir de Kafka. On referme l'ordinateur là-dessus.
D'accord.
Bien belle visite dans votre ordinateur, Antoinette Richner, Houellebecq, Christian Bobin, Sarah Kane, Philippe Forest, Kafka, je crois encore avoir entendu. Il y a du beau monde hein, déjà dans votre base de données. Merci de nous avoir ouvert à cette intimité-là, parce que c'est aussi l'intimité de choisir, de tracer quelques phrases dans un livre. C'est révélateur aussi de ce qui vous touche. Et tout cela, si j'ai bien compris, pour nourrir votre quête de la phrase parfaite. C'est quoi ? Elle ressemble à quoi, cette phrase parfaite ?
Elle n'existe pas. Si je pouvais vous la livrer ce matin, ce serait une autre réalité, une autre vie. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être la notion de ne pas laisser se perdre les trésors, en fait. Parce qu'on lit, puis on a
des petites décharges émotionnelles suivant quelle phrase nous frappe. Et puis, c'est vrai que parfois, j'écorne la page, je souligne, mais ça reste dans le livre. Et puis là, tout à coup, c'est de pouvoir amasser ça en une seule matière. Puis de voir surtout les correspondances qu'il y a entre plusieurs auteurs, une thématique qui traverse plusieurs auteurs. Ben, on l'a vu avec l'exemple de parler, enfin écrire pour ne pas avoir à parler.
Correspondance également entre technologie et
l'écriture. Ben oui,
parce que
normalement c'est dans notre mémoire qu'on garde tout ça. Mais il y a aujourd'hui des extensions de la mémoire qui sont précisément électroniques. Et c'est parce que ce sont des extensions de notre mémoire qu'elles contiennent une part de notre intimité. Il me semble que c'est cela qu'on va trouver à travers un texte qu'on va écouter maintenant, qui est un fragment d'un texte que vous avez écrit, que j'ai choisi, qui s'appelle Sonny Erickson.
Voici un Sonny Erickson. Je le pose devant moi. Je le pose devant vous. Et j'observe. Je commence à observer. J'enveloppe en ce moment le Sonny Erickson de mon regard. Vous pouvez observer la direction que prend mon regard, comparable à n'importe quelle source de lumière. Le faisceau, non, on ne le voit pas. Mais contrairement à ce qu'il advient de la rencontre entre lumière et matière, la rencontre entre le faisceau de mon regard et le Sonny Erickson reste invisible. Mes yeux sont des doigts. Je touche donc le Sonny Erickson. Mes doigts enveloppent en ce moment l'appareil. Mes phalanges s'articulent autour des angles de sa carcasse. Mes coussinets en tâtent l'étui, tapotent son écran usagé. Avec tout l'amour dont je suis capable, et beaucoup de peur, une grande peur, tandis que mes yeux, doigts, commencent à fouiller l'intérieur. Et savez-vous pourquoi l'amour et la peur me prennent au moment de fouiller l'intérieur du Sonny Erickson? Mais je vais trop vite, bien trop vite. Je profane le Sonny Erickson. Combien de temps avons-nous à disposition? Mes doigts se sont mis à parcourir le Sonny Erickson. Je n'ai pas besoin que mes doigts empressent les touches. Je n'ai pas besoin d'activer les fonctions du Sonny Erickson. Je n'ai pas besoin d'aller au menu, d'ouvrir le menu, de faire une recherche dans le menu, de me servir des petites flèches pour fouiller, du petit joystick, de la roue motrice, des icônes serviles. Je n'ai pas besoin d'effectuer une recherche en vrai numérique. Je n'ai pas besoin du pavé tactile. Tous ces mots empruntés au concret pour calmer notre peur. Je n'ai pas besoin, devant vous, pour vous révéler ce qu'il y a dans la tombe, de me servir de la technologie caduque du Sonny Erickson, car mes yeux sont des doigts. Dans l'appareil trouve le menu, dans le menu trouve répertoire, dans répertoire trouve la défunte, le nom de la défunte, la flamme de la défunte, les traits de la défunte, l'identité de la défunte par pixels, cheveux, peau morte, électronique, par mystère numérique, par mémoire, grâce à ma mémoire cérébrale. Car l'emploi de ce Sonny Erickson, l'emploi des répertoires et des aides mémoire, car la spoliation violente de mon temps par mon calendrier électronique n'a pas encore détruit ma mémoire jusqu'au bout. Car il me reste des bribes d'amour. Car il me reste des bribes de temps. Car il me restera toujours ma peur. Ma sœur est morte un 21 septembre. J'avais déjà un Sonny Erickson. Ma sœur est partie dans la tombe. Son numéro est resté là, dans mon téléphone. Ma sœur est actuellement dans mon répertoire. Au bout de son numéro, pas dans sa tombe, voilà ce que je pense et voilà pourquoi, sans doute, personne ne me vole mon téléphone. Avec le nom, le numéro dedans. Car ma sœur veille à rester près de moi.
Entre les lignes, notre invitée Antoinette Richner, on vient d'entendre ce texte, un fragment de texte inédit qui n'a pas été publié, puis que je ne commenterai pas, Antoinette, à moins que vous vouliez...
Peut-être juste relever que ça a été écrit dans la résidence d'écriture au Grutli, dans cette cellule blanche. Je pense que je dois beaucoup à la solitude, à la concentration de cette cellule pour avoir réussi à l'écrire.
On va découvrir autre chose. C'était la Christine Vouillot qui disait ce texte. On va entendre 17 fois par Roland Vouillot un texte étrange, énigmatique, si énigmatique et étrange que nous en avons parlé un moment et que j'ai hésité à le faire entendre. Et puis je l'ai confié à Roland Vouillot. Voilà ce que ça donne.
L'enfant sans visage. Je suis né sans visage. C'est une question. Ouh. Vous ne voulez pas me dire si je suis né avec ou sans visage? Non? Mais moi je sais. Sans visage, hein. Pas de nez, pas de front. Une grotte. Dites-moi s'il vous plaît si je suis né sans visage. Si c'est mon paysage que vous vous efforcez de boucher depuis ma tendre croissance d'enfant sans visage, soyez s'il vous plaît honnête pour l'amour d'avant. Dites-moi au moins si au jour de ma naissance, si j'avais un visage. Hein? Vous allez me le dire? Vous allez me le raconter? Je suis né sans paupières. Un corps si vous voulez, mais pas de visage. Hein? C'est con ça. C'est con ça, hein? C'est con ça. Ce que vous avez fait. Pas de problème, a dit le paysagiste. Vous n'avez pas de visage, une grotte. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous arranger ça. Et il coule aussitôt 2 tonnes de goudron. C'est tout là, c'est tout ici. Je suis de goudron, mais je me touche. Touchez-moi, touchez-moi. Et plus je me touche, plus le goudron. C'est la chaleur des mains, la peur des mains. Et si ce visage était, mais pour de bon, vraiment, hein, était mon premier visage, celui que je portais au jour de ma naissance, celui que j'ai toujours porté. Si vous m'aviez mis au monde avec, à l'origine, ce goudron-là, tout ce goudron en guise d'amour, les paupières en goudron, le front en goudron et les yeux en goudron. Il ne faut pas les négliger, les yeux en goudron. Ils sont faits pour regarder ses frères, pour regarder ses sœurs, pour regarder ses frères et sœurs en peau de famille. Et alors, c'est dommage, hein, c'est dommage. Le goudron fondu me fait des plis au cou, des plis au front. Et en somme, le travail du paysagiste est terminé après très très peu de temps. Et le paysagiste, avec ses dents étincelantes, ses yeux scintillants et ses cheveux brillants, dit « Regardez-vous. »
L'enfant sans visage, un texte d'Antoinette Richner, lu brillamment, on peut le dire, par Roland Vouillot. Je vois les deux dire oui de la tête.
C'est fascinant comme il a absorbé l'étrangeté.
L'étrangeté, ouais. Effectivement, il y a un mystère. On ne peut pas tout comprendre. Il faut lâcher prise, non, Antoinette Richner, dans ce genre de texte.
Oui, tout à fait.
Oui, il y a un drame dans cette histoire, on ne sait pas exactement lequel, mais il y en a un, il l'a vraiment pris en charge. Je vais très vite parce que j'aimerais qu'on entende le maximum de textes. Celui que nous allons écouter maintenant s'intitule « Face à l'ongle », à l'ongle, non, à l'oncle, face à l'oncle, à l'oncle. C'est une sorte de dialogue intérieur, mais que j'ai distribué à deux voix, dialogue intérieur probablement d'un écrivain qui se souvient de quelque chose. C'est ma propre voix et celle de Christine
Vouillot. Qui essaie de le raconter.
Et qui essaie de le raconter. Hein. On écoute ça.
Je me tiens face au perron de pierre.
Le perron?
Oui, le perron.
Rien que le mot.
C'était le mot utilisé.
De quelle couleur se couvre ton après-midi?
Jaune dimanche. L'entrée de la demeure regarde au nord.
La demeure. Quand tu le prononces, ce mot-là, quelque chose me fait prendre pitié de toi. Comme quand tu dis perron.
C'est en ces mots, des mots tout aussi jaunes, qu'est retenu l'espace. En ces mots qu'est retenue ma différence. Quel enfant pourrait échapper aux mots utilisés par les siens ? Face à l'entrée de la demeure, face au perron, je me tiens. La demeure puissante, la demeure élégante, la demeure emmurée, la demeure vieille comme un arbre, domine. Est-ce que la demeure veut me punir ? Je ne crois pas. La demeure, si elle le veut, et sans doute est-ce le cas en cette jaune après-midi, la demeure peut présenter une face tranquille, tout à fait bienveillante. Une paupière parfois cligne sur l'une ou l'autre de ses fenêtres indélébiles.
C'est la demeure qui t'hypnotise ?
C'est le mot demeure, le mot perron.
Qui rend l'air jaune. Fais-moi respirer.
Je me tenais face au perron de pierre. Autour de nous, le jardin scintillait. Gravier jaune dimanche, herbe jaune dimanche. Et dans l'air, l'intermittence des points mouches.
Le domaine.
Quoi ?
Tu devrais essayer le mot domaine.
Autour de nous scintillait le domaine. Gravier, herbe jaune dimanche. Et dans l'air.
Dans l'air ?
L'intermittence des points mouches. Et lui.
Lui ?
Lui, proche de moi. Son trépied implanté dans le gravier.
Où en est ton après-midi ?
Nulle part. Nous avons été abandonnés aux mains de la demeure. Le cours des heures est englué. Ces rayons qui transpercent le feuillage, ces rayons responsables du brusque scintillement des points mouches, viennent déjà de l'ouest. Mais le cours des heures est englué. Comme chaque dimanche, nous avons tous beaucoup trop mangé et nous préférerions nous allonger plutôt que de nous parler les uns aux autres, plutôt que de nous tenir debout dans ce jardin.
Tu ne veux donc pas dire domaine ?
Non.
Mais tu gardes perron ?
Le perron, je le garde. Le perron, j'en ai besoin. Car sans perron, pas de demeure. Et sans demeure, pas d'oncle, pas de trépied.
Le trépied ?
Le trépied est en place depuis plusieurs minutes. C'est ce par quoi l'oncle a commencé. Et maintenant, il s'affaire autour de son objectif.
Il cadre le perron.
Il cadre les sujets, les membres de la demeure, les héritiers du perron.
Les membres de la demeure.
Leur posture sur la pierre. Ils portent des collerettes.
Comment ça, des collerettes ?
Louis, Machin, Calvin, Victorien, je ne sais pas te dire exactement. Si tu veux t'en faire une image, tu dois penser à ces collerettes de vétérinaire, tu sais ? Celles que les chiens, par exemple, portent autour du cou quand ils ont subi quelque chose, pour les empêcher de se gratter.
Les membres de la demeure portent ce genre de trucs ?
Le dimanche, oui. Ils la portent autour du cou, autour de la taille aussi. Ils portent ces machins semi-rigides et il est très difficile de savoir ce qui pèse le plus lourd. La fierté ou la honte de les porter ? Tu devrais les voir. D'abord, la collerette fixée à la taille les empêche de s'asseoir confortablement.
Ils doivent s'asseoir.
C'est la pose. Ce sont les ordres de l'oncle pour la photo. Ils essayent donc de s'asseoir, mais leur cul ne semble jamais vraiment posé sur la marche. Et je suppose qu'ils serrent les cuisses pour garder l'équilibre, pour ne pas se casser tout simplement la gueule au bas du perron. Quoi qu'il en soit, cette crispation se lit sur leur figure. Et l'oncle, très certainement, sans monter en lui une humeur terriblement mauvaise à l'idée de devoir photographier ces figures-là. Quant aux collerettes du cou, celles-là ce sont les pires de toutes. Les collerettes du cou, avec la meilleure volonté du monde, leurs porteurs ne peuvent pas oublier le ridicule dont elles les couvrent. Les collerettes du cou. Dès le moment où il a fallu se saluer, se réunir, les collerettes du cou ont amené des difficultés supplémentaires. Si tu les voyais. Ils gravissent le perron, puis dans l'entrée se font face, se heurtent, ils doivent s'embrasser, mais leurs collerettes s'en mêlent. Les joyeuses Pâques, les joyeux Noël, les bons anniversaires grand-mère et les comment ça va, giclent de toutes parts, n'atteignent que rarement l'adversaire. Tout le monde souffre énormément d'être là, et s'empresse d'autant plus. Lorsqu'enfin, chacun d'eux sera parvenu à affronter son voisin, en duel singulier, sans s'étrangler définitivement, la cérémonie d'ouverture prend fin et une sorte d'accalmie, un soulagement, s'étend. De courte durée, puisqu'il faudra bientôt passer à table.
Voilà, Face à l'oncle, c'est le titre que vous avez donné, Antoinette Richner, au texte qu'on vient d'entendre, donc dialogue intérieur, comme si l'on voyait de l'intérieur le processus d'écriture et de création. Moi, ça me rappelle certains textes de Pinget, où il mettait sous forme de dialogue et sous forme de théâtre son impossibilité à écrire. Là, c'est pas l'impossibilité, mais c'est la recherche du mot juste. Ça vous est venu d'où, cette envie de cette histoire de vieille photo, de famille avec Collerette?
C'est l'ambiance du dimanche, c'est vrai que là, on l'a entendu aussi avec la musique. C'est cette photo un peu passée.
Elle collait alors la musique.
Complètement.
Génial. On va terminer par quelque chose de... Enfin, moi que j'ai trouvé drôle, il ne faut jamais dire ça parce qu'on rit moins après. c'est l'histoire d'une conseillère fédérale et d'un maître d'école.
Simonetta Sommaruga m'a envoyé un mail. Elle se réjouit de me représenter au Conseil fédéral. Le problème, c'est que je n'arrive pas à retenir son nom. Simonetta Sommaruga. Impossible de m'en souvenir. J'ai déjà essayé les trucs mémotechniques, soma, somatique, tout ce que tu veux. Pas moyen de m'en souvenir. Mais qui es-tu? Si tu ne sais même pas le nom des nouveaux conseillers fédéraux. Par moment, je suis celle qui connaît le nom des nouveaux conseillers fédéraux. J'apprends par cœur. Je Simonette, je Sommagure, puis plus rien. C'est comme ça, et rien n'y fait. Mais je garde espoir. Je continue à murmurer dans le train, en marchant, sous la lune, sous la pluie. Aujourd'hui est un grand jour. Simonetta me représente. Simonetta nous représente, vous et moi, au Conseil fédéral. Ma fille entre dans une nouvelle école. Dans la nouvelle école, il y a Monsieur Vieuget. Monsieur Vieuget par-ci, Monsieur Vieuget par-là. Monsieur Vieuget entre dans notre maison par le biais de ma fille. Elle ne parle, pour ainsi dire, que de Monsieur Vieuget, depuis qu'elle a recommencé l'école, depuis qu'elle est entrée dans cette nouvelle école. Comment est Monsieur Vieuget, nous demandons. Monsieur Vieuget est vieux, il a au moins la quarantaine. Monsieur Vieuget a des lunettes carrées. Et M. Vieuget dit tout le temps « n'est-ce pas ?» nous répond ma fille. Et aussitôt, M. Vieuget s'assoit à notre table. Aussitôt, l'image de ses lunettes se met à flotter dans les pièces. Par exemple, explique ma fille, M. Vieuget dira aux élèves « mais vous n'êtes plus à l'école primaire, n'est-ce pas ? Vous êtes à l'école secondaire maintenant. » Et ma fille répète son « n'est-ce pas ?» Elle assaisonne cette phrase et une quantité d'autres phrases avec son « n'est-ce pas ?» Et nous commençons tous à répéter « n'est-ce pas ?» à tout bout de champ, comme si nous étions devenus, nous aussi, les élèves de M. Vieuget. Et jour après jour, nous nous adressons des « n'est-ce pas ?» en guise de bonjour et en guise de bonne nuit. Nous nous servons du « n'est-ce pas ?» en veux-tu en voilà au petit déjeuner et au repas du soir. Et nous n'oublions pas de nous donner du « n'est-ce pas ?» au moment de nous laver les dents. Pendant que je viogette, que ma fille viogette, et nous viogettons tous en cœur, pendant ce temps, M. Vieuget se tient dans l'embrasure de la porte, ses lunettes carrées tout à fait semblables à celles que j'imaginais. Il nous regarde et il se tait. Je rentre chez moi après une dure et harassante journée d'écriture et je trouve Simonetta en personne et M. Vieuget accoudés à la table de la cuisine en train de bavarder. Je suis très heureuse de vous représenter au Conseil fédéral, dit Simonetta à M. Vieuget. Une vie bien chargée qui s'annonce pour vous, Madame Sommaruga, n'est-ce pas ?
Je Simonette, je Sommagure. Merci pour ce sourire, Antoinette Richner. Alors, la conseillère fédérale, on sait qu'elle existe. Moi, ce que j'ai appris pendant qu'on l'écoutait ici, et on s'amusait bien d'ailleurs, que M. Vieuget aussi existe.
Donc, nous le saluons.
Oui, s'il nous entend.
Alors, les suites pour vous, Antoinette Richner, donc cette expérience au Gritly s'est achevée récemment. Est-ce que vous vous octroyez un petit peu de répit ou vous enchaînez sur d'autres projets?
En fait, j'ai une commande d'écriture pour une adaptation du roman Antigone de Beauchaud par la compagnie du Passage et la compagnie L'Outil de la Ressemblance dans le canton de Neuchâtel. Donc c'est un gros chantier qui s'annonce, qui est déjà en cours depuis quelques temps. Voilà, avec évidemment un grand respect pour ce roman qui est magnifique, donc peut-être une difficulté de commencer à y toucher et d'ajouter un peu forcément mon grain de sel, enfin de passer du roman à la scène.
Alors on se réjouit de découvrir votre nouveau travail. Merci Antoinette Richner d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette Entre les lignes avec cette nouvelle formule Les Maudits. Belle journée à vous, puis à bientôt.
Merci à vous, puis merci à Jean-Michel pour ces textes.
Je t'en prie, merci, au revoir.
Jean-Michel Meyer, Christine Gonzalez pour cette Entre les lignes. Merci à Christine et Roland Vouillot pour leur magnifique lecture. Merci à Dominique Stalder qui a assuré la mise en onde de cette émission. Et un dernier merci à Janaïne Corbeau, notre assistante de production. Toutes nos émissions sont à réentendre sur Internet. Vous tapez l'adresse entrelesignes.rsr.ch. Vous y trouverez également des liens, des informations sur tous les auteurs que nous recevons. Demain, rendez-vous à 11h avec Sylvie Tanette et l'auteur français, et aussi journaliste, Jérôme Garcin. Il publie chez Gallimard Olivier et raconte la disparition de son jumeau. Et après les informations de midi, retrouvez toute l'équipe de Dardar, le magazine culturel d'Espace 2, avec vous à bord. Yves Rond, bonjour.
Bonjour Christine. On a de la musique en direct à vous offrir aujourd'hui. Le pianiste Nick Berch, d'origine zurichoise, est en concert en solo à Collonges-Bellerive dans le cadre du festival Antigel. Nick Berch, il fait partie de plusieurs groupes, notamment le groupe Ronin. Ronin qui vient de faire paraître son troisième album sous le prestigieux label ECM. Donc on se réjouit vraiment de l'entendre. Donc en direct, on fera également un petit détour par Antigel, justement, cette première édition pour ce festival Genevois. Marc Berman est parti un petit peu à la découverte des différents spectacles. Il va nous faire un joli compte-rendu tout à l'heure dans Dardar.
Vous écoutez Espace 2,